commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre ? Avec l'Oiseau des Liens, nous sommes là pour partager avec vous nos coups de cœur et les nouveautés. Bonne année à tous pour cette première émission de l'année. Et bonjour Annie.
Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord de deux romans dont le chat est le fil conducteur. Donc d'abord, Le chat aux yeux d'or de Sylvana de Marie aux éditions Bayard Jeunesse. Ce roman nous conte l'histoire de Leïla. Leïla qui, pour sa première journée au collège, vit l'horreur. Elle arrive en retard, t-shirt taché, chaussettes dépareillées et en plus, elle est grosse. Les moqueries fusent des enfants et de l'enseignante. Il faut dire que Sylvana vient d'une école, l'école de Santa Rosa, l'école de tous les réfugiés, de tous les miséreux. Donc elle ne se sent pas vraiment à sa place dans ce collège. La liste des fournitures que donne l'enseignante, complètement inutile de la noter, sa maman n'aura pas les moyens de lui acheter la moitié de ce qu'il y a sur cette liste. Et pourtant, Leïla s'accroche. Elle s'accroche parce qu'elle a promis à Myriam, sa meilleure amie, qui elle aussi était dans cette école de miséreux, de s'accrocher pour lui transmettre ce qu'elle apprend chaque jour au collège, parce que Myriam, elle, ne va pas au collège. Et un jour tout change. Un jour, Leïla monte sur le toit du collège pour retrouver un chat miséreux qu'elle nourrit chaque jour avec les moyens du bord. Et le fait qu'on soit obligé d'aller la chercher sur le toit du collège change le regard des autres enfants. Un semblant d'amitié s'installe, on l'aide aussi, l'une d'elles va lui donner de quoi écrire correctement. Et là, tout va évoluer dans le collège parmi les enfants, mais pas l'enseignante. L'enseignante, elle, reste sur ses a priori. Et puis Leïla, un jour, a recueilli Fabuleuse, une petite chienne en mauvais état qui est venue gratter à sa porte. Et de ce fait, quand elle rentre chez elle, Leïla n'est plus seule. Elle a Fabuleuse qu'elle emmène faire de grandes balades dans la nature et l'attente de sa maman n'est plus la même. Et puis, son physique aussi va changer avec ses balades dans la nature, donc le regard des autres aussi va changer. Et le fil conducteur de ce roman, c'est quand même ce chat qui apparaît à des moments cruciaux de l'histoire et qui change le cours de l'histoire. Mais dans ce roman, avec un soupçon de fantastique qui est ancré malgré tout dans une réalité, la réalité de la pauvreté, de l'exclusion, on est confronté avec Leïla aux inégalités sociales. Et même si les enfants n'ayant pas de soucis pour vivre ne sont pas forcément heureux, car il est difficile parfois de réaliser le rêve de ses parents. Sylvana de Marie aborde aussi les violences faites aux femmes et aux petites filles africaines, même en Europe. Si Myriam ne va pas à l'école, c'est parce qu'elle est africaine, c'est parce que les filles ne vont pas en classe. Et un jour, lorsqu'elle est en très mauvais état, c'est parce qu'elle a subi aussi l'excision. Donc, un roman fort avec un tout petit soupçon de fantastique. Et je vais vous montrer comment Leïla s'accroche pour, en classe, être à la hauteur de ce qu'attend l'enseignante. Parce que bien sûr, le français, c'est pas la tasse de thé de Leïla. Donc, un soir, elle lit et relit les phrases pour les apprendre par cœur. Une subordonnée à l'imparfait, introduite par « si », articulée avec une principale au conditionnel, exprime l'hypothèse, l'espoir, la peur, le rêve. « Si tu venais, je pourrais. S'il cuisinait, je m'enfuirais. Si j'écrivais plus souvent, tu serais content. Si le comte Dracula de Transylvanie revenait, nous mangerions du pain à l'ail au petit déjeuner, au goûter, au dîner. » C'était pas si difficile que ça. En le mémorisant sur un rythme de rap, elle y arrivera encore mieux. Au lieu de dire des stupidités sur les écoles que j'ai fréquentées et comme un chien aboyé alors qu'elle devrait s'apitoyer, si l'idiote employait son temps à enseigner, les constructions hypothétiques, je pourrais les manger. Les conditionnels au petit déjeuner, je prendrais. En grammaire, un aigle, je serais. Si elle utilisait, elle ne serait pas. Si je savais, je ne voudrais pas. S'ils voulaient, ils pourraient. S'ils aimaient, il ne dirait pas. Chaque fois qu'une éventualité dépend d'une condition, il faut utiliser l'imparfait. Voilà, donc une solution certainement pour d'autres, pour apprendre la grammaire. Donc cela, c'est le roman de Sylvana de Marie, Le chat aux yeux d'or. Et ce roman m'a fait penser à un roman paru il y a longtemps de Sylvana Gandolfi, Un chat dans l'œil, à l'école des loisirs dans la collection 9. Sylvana Gandolfi qui a elle aussi l'habitude de surfer sur le fantastique. Donc ce roman-ci se passe à Venise. À Venise où Dante, un petit garçon qui déjà a du mal à supporter son prénom, vit seul avec sa grand-mère parce que ses parents sont partis à Hong Kong. Et en classe, il est un petit peu comme Leïla, il n'est pas très doué en langue. Alors, je ne vais pas dire français puisque c'est une traduction de l'italien. Et sa grand-mère décide de l'envoyer chez un vieux professeur qui a été le professeur de sa maman, le vieux Dolan, pour qu'il apprenne correctement la langue. Et ce vieux monsieur est un être assez extraordinaire qui va effectivement l'aider à apprendre, à être meilleur en classe, mais surtout qui va lui faire découvrir ce que peut apporter le chocolat. Le chocolat qui peut permettre de deviner, de suivre, de voir la pensée de ceux qui boivent la même boisson que l'enfant ou l'adulte. Et ce miracle, il va d'abord le faire, et surtout le faire avec un petit chat, un chat nouveau-né qui naît et qui va, lui, être transformé par le chocolat. De l'extrait distillé, tu vois, c'est un liquide transparent. C'est la première fois que je tente l'expérience de cette façon. Mais il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Que va-t-il se passer, fiche d'une petite voix? Tout d'abord, il faut qu'il ouvre les yeux. Ensuite, tu te mettras en face de lui. Vous regarderez longuement dans le fond des yeux. Mais attention, il faut que tu sois le premier être vivant qui apparaisse devant lui. Alors tu pourras lire dans ses pensées, criai-je fou de joie. Mieux encore, que pouvait-il y avoir de mieux que de lire dans les pensées de mon chat Virgile? S'il te voit vraiment bien, s'il voit ce qu'il y a en toi, tu comprends ce que je veux dire, petite Dante? Il n'est pas facile de laisser un autre regarder en soi-même, tu sais? Oui. Si vous vous regardez comme ça, tu pourras alors voir avec les yeux de Virgile, même si vous êtes loin. Quand tu fermeras les yeux et que tu le souhaiteras, tu verras tout ce que voit Virgile à ce moment-là. Dolan claqua des doigts. « Transmission de pensée à distance » cria-t-il, avec le même plaisir qu'aurait eu quelqu'un d'autre à crier « Pizza à la napolitaine !» Je fermais les yeux pour mieux savourer, moi aussi, ces mots. J'avais la tête qui tournait, des petits points rouges sur fond noir clignotaient derrière mes paupières closes. Et cette possibilité va être assez extraordinaire dans le roman. Le vieux professeur va mourir, et le petit chat va être rejeté à la rue. Et bien sûr, Dante va vouloir retrouver son chat. Donc il ferme les yeux pour le suivre dans Venise, ce qui va lui poser quelques petites péripéties assez désagréables. Marcher dans Venise en fermant les yeux, cela fait que parfois on tombe dans le canal. Et puis, en fermant les yeux, en suivant son chat, il va se rendre compte que ce chat est ramassé, recueilli par une petite fille, et tout en suivant toujours, en fermant les yeux, il y a plein de choses qui se passent au fil du roman, mais il y a vraiment ça. Il va voir que cette petite fille est enlevée par deux affreux bonhommes et il va essayer de la retrouver, de suivre, de la sauver, toujours en fermant les yeux et en suivant son chat. C'est assez extraordinaire à lire. Je ne vous dévoilerai pas la fin qui est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans le roman. Il vous reste plus qu'à le découvrir. Donc, Un chat dans l'œil de Sylvana Gandolfi.
Après la vague de Oriane Charpentier aux éditions Gallimard. Max et Jade, sa sœur jumelle, sont en vacances avec leur famille en Thaïlande sur les plages. Et Max est un ado, disons, un peu comme les autres, un peu arrogant, qui profite de sa belle gueule pour aller plaire aux filles. Et il était très proche de sa jumelle étant plus jeune. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à communiquer. Il passe plus son temps à lui envoyer des piques, à se moquer d'elle, de son physique, parce que lui a grandi en ayant son physique pour lui, mais sa sœur est un peu plus ingrat, elle a pris quelques kilos, enfin voilà, il se moque de ça parce qu'il ne sait plus comment parler à sa sœur. Alors que ses parents et son grand frère donc partent visiter un temple dans les montagnes, Max préfère aller draguer les jeunes Norvégiennes sur la plage, et malgré tout, sa sœur l'accompagne. Et puis, vient la vague. Destructrice, pardon, le tsunami de 2004. Max se souvient vaguement d'une course à travers les habitations. Tenir la main de sa sœur, il sent Jade qu'il pousse en avant. Et puis, la vague les fauche. Max sera le seul à s'en sortir vivant. Et le roman, donc, après la vague, c'est tout l'après pour Max. Le deuil du jeune homme, de sa sœur, mais aussi de la culpabilité qu'il ressent, parce que les dernières choses qu'il a dit à sa sœur, ce sont pas vraiment les derniers mots qu'on voudrait dire à sa sœur jumelle. Et c'est toute sa reconstruction, d'abord physique, puisqu'il a été blessé, et puis après c'est vraiment sa reconstruction. Il va passer par tout un tas d'étapes pour réussir à justement ne plus porter la culpabilité de la mort de sa sœur. C'est un roman court, mais vraiment percutant. Et le fait qu'il paraisse seulement maintenant, tant d'années après le tsunami, ça renforce encore cette idée de temps, de maturité qu'il a fallu au roman. Et donc on transporte ça à Max, au jeune garçon, pour se reconstruire et finalement réussir à continuer de vivre sans sa sœur.
Et pour terminer, un album, Tony Teeny Boy, de Vincent Cuvelier, illustré par Dorothée de Monfred, chez Helium. C'est un album qui est intéressant pour le rapport entre le texte et l'image. Donc, voilà, Tony Boy était rentré de la guerre contre les Indiens et les Indiens avaient perdu. Sa maman, son papa, ne l'avaient pas reconnu, c'est sûr. Tony Boy avait changé. Il ne parlait plus pareil, il ne mangeait plus pareil.
Et là, on voit en fait, je vous explique, le jeune garçon qui est sous sa table, assis en tailleur comme un Indien avec une plume à côté de lui et sous la nappe. La nappe forme en fait un tipi sur le jeune garçon, donc on voit le décalage entre « il ne mangeait plus pareil » et l'illustration de Dorothée de Monfred.
Il ne montait plus pareil à cheval. Et là, il monte à cru.
Avec une plume sur la tête.
Il était devenu un Indien, un vrai, avec des plumes et des couleurs, partout sur le visage. Bientôt, Tony Teeny Boy s'ennuya. Les cow-boys, c'était bien joli, mais ils ne savaient rien faire. Ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas manger, ils ne savaient pas monter à cheval. Ils ne mettaient pas de plumes sur leur chapeau. Un beau jour, Tony Teeny Boy décida de retourner chez les Indiens. « Tu vas encore faire la guerre ?» demandèrent ses parents. Alors Tony Teeny Boy sourit, les embrassa et partit sans se retourner. « Ils sont fous, » pensa-t-il. « Pour moi, la guerre s'est terminée. » Les Indiens avaient gagné. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce rapport texte-image où le texte est tout simple et où l'illustration donne vraiment la force du texte, de l'histoire.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.